Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue sur le site du pays carcassonné. 2011, l'année mondiale de la chimie et centenaire du prix Nobel de chimie de Marie Curie. Alain Falvard, co-organisateur du Bar des sciences et directeur du laboratoire du CNRS de Montpellier, Jean-Claude Pérès, président du pays carcassonné, député maire de Carcassonne, souhaitait débattre autour de la chimie et la chimie du futur. Et pour cela, nous avons invité deux chercheurs, Éric Dubreuc et Michel Vert, et puis la participation de Michel Cornuet et de Joël Raymond. Ils vont se présenter et le débat est ouvert.
Joël Raymond, donc à la DREAL Languedoc-Roussillon. Alors, la DREAL, c'est quoi? C'est la Direction régionale de l'écologie, de l'aménagement et du logement. C'est je dirais, une direction du ministère de l'écologie à laquelle je suis donc chargé de mission en tout ce qui concerne les pollutions d'origine agricole, mais aussi quelques-unes, je dirais, non agricoles par rapport à l'eau. Donc, j'ai une expertise sur la qualité de l'eau, notamment au regard, par exemple, de certains polluants, micropolluants comme les nitrates et les pesticides. Voilà, donc si je pourrais répondre à des questions liées à toutes ces différentes pollutions.
Donc, je suis Michel Vert, directeur de recherche au CNRS. En fait, je vais rajouter émérite parce que j'ai terminé ma carrière il y a 3 ans maintenant. L'éméritat, c'est quelque chose qui permet de continuer à exercer son métier et sa passion en matière de recherche tout en étant à la retraite. Donc, j'ai toujours des activités. Alors, quels sont mes domaines d'activité? Bien, à l'origine, je suis un chimiste, bien entendu, sinon je ne serais pas là. Un chimiste qui s'est spécialisé en chimie organique d'abord, puis plus précisément en chimie des substances macromoléculaires. Voilà, ça y est, un premier mot scientifique. Alors, on va revenir au terre à terre. Plastique. Pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé sur des plastiques qui étaient un petit peu dans les nuages, si vous voulez, qui servaient à rien, avant de découvrir que tout ce qu'on faisait avait un intérêt pour la biologie. Et j'ai contribué à créer deux laboratoires, donc le dernier à Montpellier, qui s'appelle le Centre de recherche sur les biopolymères artificiels. Alors, s'il y en a qui aiment bien la terminologie ici, biopolymère artificiel, c'est une hérésie, puisque artificiel veut dire non naturel et biopolymère veut dire naturel. Alors, j'aurai peut-être l'occasion de vous expliquer les nuances, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Donc, les domaines d'activité, ce sont essentiellement les polymères dits, personnellement j'utilise le mot dégradable, mais le mot à la mode, c'est biodégradable. Hein, biodégradable pourquoi? Eh bien, pour la chirurgie, pour la médecine, pour l'environnement. Pourquoi? Pour des applications limitées dans le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une application qui est limitée dans le temps, on n'a pas besoin de matériaux qui durent très longtemps. Donc il faut les éliminer, il faut les dégrader. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir.
Donc, bonsoir, donc moi je suis Éric Dubreuc, je suis professeur à Montpellier Supagro, une école qui forme des ingénieurs agronomes. Donc moi je suis plutôt biologiste de formation et ma spécialité c'est la biotechnologie microbienne. Biotechnologie microbienne et enzymatique qui concerne donc l'utilisation de micro-organismes comme outil, leur étude et utilisation de micro-organismes comme outil pour réaliser des transformations. Les transformations réalisées par les micro-organismes, il y a un certain nombre que vous connaissez, hein, avec des levures, on fait fermenter du jus de raisin pour faire du vin, on fait du pain, etc. Il y a tout un tas d'applications classiques des micro-organismes. Mais ces transformations, ça correspond à des transformations, alors qui ne sont pas chimiques, qui sont biochimiques, mais qui correspondent à des transformations de certaines molécules de départ en d'autres molécules. Et autour de ça, on s'intéresse à l'utilisation de ces systèmes biologiques, de ces micro-organismes, pour transformer des matières premières, alors essentiellement d'origine agricole, mais pas seulement, en molécules qui peuvent avoir des applications soit dans l'alimentation, soit des applications en chimie, des applications en cosmétique, des applications diverses.
Merci. Alors moi, je suis Michel Cornuet. Je suis pas du tout chimiste. Du reste, j'ai toujours été un cancre en chimie. J'ai été tranquille une fois qu'on m'a dit que en jouant avec les électrons, on n'était pas des chimistes, donc on risquait de rien faire de mal. Et donc, professionnellement, j'étais électronicien. Aujourd'hui, là, c'est plutôt en tant qu'élu de la ville de Carcassonne et en tant que responsable d'une structure qui s'appelle le SMICTOM, où on est chargé, en fait, de gérer vos produits une fois que vous les avez fabriqués, de les stocker, de les éliminer, je ne sais pas trop qu'en faire, et donc d'essayer de dégrader, de traiter, de recycler les produits que vous nous avez produits et que vous avez fabriqués, ce qui pose pas mal de soucis.
Merci, messieurs. Donc, nous allons ouvrir un débat par la première question, peut-être, à Michel Vert, et puis vous répondrez, vous, messieurs. Qu'est-ce que la chimie en deux mots?
Bon, la chimie, si vous voulez, c'est une science, d'abord. C'est une science qui va avoir pour objectif, comme mon voisin l'a dit, de transformer la matière qui est faite d'atomes, d'électrons plus petits, d'atomes, etc. Et la chimie, elle a pour but d'associer des atomes que l'on trouve dans la nature pour en faire des nouvelles molécules, et lesquelles nouvelles molécules trouvent de l'application dans pratiquement tous les domaines. Alors on voit toujours la chimie, hein, je suis sûr que même dans la salle, il y en a qui perçoivent la chimie comme quelque chose d'extrêmement sale, polluant, etc. C'est vrai, c'est de l'industrie. Mais à côté, il faut réaliser que la chimie est à l'origine de tout, ou pratiquement tout, ce que les humains utilisent. Vous avez entendu la biochimie. La biochimie, c'est la chimie de la nature, mais ça n'empêche que c'est encore de la chimie. Et la nature utilise beaucoup des lois de la chimie, peut-être de la physique aussi, hein, pourquoi pas, mais des lois que l'on utilise, nous les scientifiques, tous les jours. Donc la chimie, il ne faut pas la voir seulement de son côté pollution, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement positif.
On va s'arrêter là alors. On va demander à Joël Raymond, à M. Joël Raymond, s'il est d'accord avec vous. Pour vous, la chimie.
D'accord sur la définition, parce qu'en effet, dans le milieu vivant tel qu'il est, on a bien évidemment différentes interactions qui produisent, donc, comme l'a signalé mon voisin, des molécules, et donc sont à l'utilisation de beaucoup de matériaux aujourd'hui ou de biens que l'on utilise. Moi, j'ai en effet un regard différent qui est porté sur la chimie, puisque c'est essentiellement un regard lié à la pollution qu'elle peut entraîner vis-à-vis de l'eau. Donc c'est un regard vers une chimie industrielle, une chimie pas organique, mais plutôt une chimie de synthèse, et qui nous pose des problèmes sur la qualité de notre ressource en eau, qui est un bien, je dirais, à protéger d'urgence.
Monsieur Eric Dubreuc, vous me diriez quoi pour la chimie ?
Bon, moi je vais rejoindre évidemment la définition,
bien près du micro,
la définition qui a été donnée initialement. La chimie, c'est effectivement une science dans laquelle on va recombiner la matière pour produire de la matière nouvelle. Alors, on a parlé chimie, biochimie. Bon, il y a la partie, du point de vue, enfin bon, je pense que là c'est peut-être plus à la salle de donner son point de vue, mais dans une acceptation de la chimie par rapport à la biochimie, il y a des notions de procédés plus industriels, de matières premières issues de ressources minérales, elles-mêmes issues d'une industrie, issues du pétrole, et puis des procédés qui ont été développés au cours des années de façon à optimiser au mieux la synthèse de molécules qui n'existent pas forcément dans la nature, mais également de molécules qui peuvent exister dans la nature et qui peuvent également être produites par des systèmes biologiques. Donc comme l'a signalé Michel Vert, les mécanismes de base de la biochimie sont des mécanismes de chimie. C'est les mêmes types de réactions, simplement ce sont des réactions qui sont réalisées par des êtres vivants qui ont été optimisés au cours de l'évolution, et qui se font en général dans des conditions qui, du point de vue de l'impact environnemental, sont très optimisées en termes de conditions de fonctionnement. La biochimie va fonctionner à température ambiante, notre corps entier fonctionne, et un ensemble de réactions chimiques qui fonctionnent à 37 degrés, Alors que dans la chimie, on va souvent avoir des réactions quand on est à 200 degrés, haute pression, etc., dans des conditions extrêmes. Mais on va retrouver les mêmes mécanismes, mais je dirais optimisés et avec un usage des ressources naturelles dans un système qui s'organise en écosystème, etc. Après, en termes de définition générale de la chimie, je rejoins tout à fait ce qui a été présenté.
Juste peut-être, vous voulez compléter, peut-être surcompléter ? Oui, compléter, oui.
Parce que, c'est la remarque qui me fait réfléchir. La chimie, pendant très longtemps, elle date de 3 siècles à peu près, la chimie maîtrisée, elle a consisté à fabriquer des produits, des substances, des produits, etc., des matériaux, etc. Depuis quelques années, disons une vingtaine, 20, 30 ans, on se soucie maintenant en chimie du devenir aussi des produits chimiques et à veiller à ce que les procédés, etc., soient beaucoup moins négatifs, si je puis dire. Donc je pense qu'il faut avoir conscience de cette évolution de l'histoire de la chimie, d'une époque où on synthétisait, on cherchait des procédés, etc. Maintenant, on cherche à limiter les impacts de ces procédés et voire à se débarrasser des produits chimiques.
Je pense que vous étiez en train de préparer certainement Michel Cornuet à son intervention. Hein? Non, mais là, vous avez essayé de baisser la pression un petit peu, je crois. La chimie, ça fait monter ou baisser la pression chez vous?
Moi, c'est un mystère, ce truc. Hein. C'est quoi? C'est quelque chose qui est complètement mystérieux pour moi. Mais par contre, ce que j'ai une vague idée en tant qu'aussi scientifique, c'est que lorsqu'on assemble tout ce qu'on va trouver dans nos déchets ménagers et un peu partout, on va donc assembler soit dans un incinérateur, soit dans un centre d'enfouissement technique, une espèce de cocktail absolument infernal, ou qui va être complètement le hasard de ce que nos concitoyens ont mis dans leur poubelle. Ça va du médicament à tous les produits divers et variés qu'on peut avoir dans notre quotidien. Et ce cocktail infernal, je suis pas sûr qu'on sache en faire quelque chose, nous. Donc, pour moi, c'est assez terrible, votre aventure, là.
Mais finalement, est-ce qu'on peut vivre sans chimie ? Alors, allez-y. Vous êtes chez vous ici. Non, vous prenez juste le micro et vous parlez bien.
Ma chapelle, si vous permettez. Je pense que chacun a une chapelle. Ma chapelle, c'est le domaine des plastiques, donc des matières organiques. Est-ce que vous avez réalisé que ces matières que l'homme a inventées il y a moins de 100 ans, hein, 80, à peu près 8 décades, elles ont révolutionné complètement la vie humaine et qu'on ne pourrait pas, par exemple, être dans cette salle s'il n'y avait pas les matières, ce qu'on appelle vulgairement les matières plastiques. Réfléchissez, vos vêtements le sont, on serait à poil, la nappe est probablement à base de plastique, les peintures, etc. Tout ça, c'est, ça relève de la chimie positive, si je puis dire. Hein. Oui, la chimie positive. Donc cette chimie, alors je vais aller plus loin, c'est qu'actuellement, d'après des statistiques américaines, 70% de la chimie est tournée vers ces matériaux organiques qui nous servent et qui ont révolutionné. Il n'y aurait pas d'ordinateur, il n'y aurait pas de satellite, il n'y aurait pas de tout ça s'il n'y avait pas la chimie des grandes molécules. Et d'ailleurs, quand il y a une faiblesse de matériaux, eh bien, ça donne la perte d'une navette spatiale ou des choses comme ça pour simplement un petit bout de plastique. Ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années avec un shuttle. Donc, vous voyez combien c'est important. Pourquoi ? Parce que dans les matières plastiques, vous avez les colorants qui relèvent de la chimie de base. Vous allez avoir la matière, vous avez des additifs qui servent à mouler, etc., etc. Et tout ça, c'est lié à cette énorme industrie de la chimie qui produit principalement des matériaux, de la matière, bien entendu, des substances, et ensuite des matériaux.
Merci, monsieur Michel Vert. Je crois qu'on va vous donner la parole, hein, mesdames, messieurs, parce que vous avez entendu nos invités, mais vous êtes aussi là peut-être pour nous dire vos sentiments sur la chimie. Alors, je vais vous tendre le micro, vous me levez le doigt comme à l'école. Il y a des professeurs de chimie ici ? Oui, voilà. Alors, comment est-ce que vous enseignez la chimie, justement ?
J'enseignais la chimie il y a fort longtemps. Ça fait déjà 12 ans que je n'exerce plus. Mais enfin, je retiens, dans ce que j'ai entendu, tout au moins pour le moment, Une question. Peut-on vivre sans chimie? Ça veut dire tout simplement qu'on a oublié que l'être vivant est une colossale usine chimique. Pour vivre, on absorbe. On appelle ça des aliments, mais pas forcément, puisqu'on absorbe aussi de l'air. On respire, on le transforme, on a avalé un mélange de d'azote et de dioxygène, et on en rejette une partie additionnée de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone. Par conséquent, le seul fait de respirer fait qu'on pratique dans notre corps, mais ça c'est valable pour tous les êtres vivants, on pratique déjà de la chimie. Ce qui m'amènera à poser à nos savants qui sont là, comment on est arrivé à faire la distinction, puisque les uns disent qu'ils sont des spécialistes de la chimie organique, c'était bon du temps où on séparait la nature des produits qui étaient issus des êtres vivants, ça relevait de la chimie organique, et tout le reste qui relevait de la chimie minérale. Mais depuis que la chimie a progressé, on sait bien qu'on peut très bien passer d'un monde minéral au monde organique et inversement. Et enfin, puisqu'on a des spécialistes de la biochimie, je souhaiterais partir d'ici en ayant un peu plus de lumière sur les OGM. Et est-ce que la création d'OGM relève de la biochimie?
Qui veut répondre? Allez. Éric Dubreuc, oui.
Sur votre première, concernant vos premières remarques et questions, hein, sur la chimie, la biochimie, une des caractéristiques des êtres vivants, c'est justement de concilier la chimie minérale, la chimie organique. Une plante est capable de produire du sucre, du bois, des feuilles, des colorants à partir d'azote, à partir de dioxyde de carbone de l'air, à partir de sels minéraux du sol, associés à des bactéries à partir d'azote de l'air, donc à partir de composés purement minéraux, de lumière, une plante est capable de fabriquer toute une panoplie de molécules qui vont constituer ensuite nos aliments, qui vont nous permettre à nous-mêmes de nous multiplier, etc. Donc ça, c'est une des caractéristiques des êtres vivants, c'est effectivement de combiner chimie organique, chimie minérale, tout ça, ça n'a pas de grand sens au point de vue... disons, du fonctionnement des êtres vivants. Les êtres vivants ont cette capacité à convertir du minéral en organique et de l'organique en minéral au cours des réactions de dégradation, etc. Et c'est cet ensemble de transformations que les êtres vivants sont capables de faire qui est à la base d'une vie sans pré-chimie ou d'une vie... sans chimie industrielle, qui est quand même de dire qu'on peut faire des tables en bois, on peut s'habiller en coton, on peut mettre des pulls en laine, donc on peut avoir des polymères, des colorants, qui sont produits exclusivement par des réactions biologiques, qui donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à la base sont des réactions de type chimique, mais organisées, catalysées par les êtres vivants. Et une des caractéristiques des êtres vivants, c'est leur capacité à accélérer de façon extrêmement importante de facteurs de plusieurs... en puissance de 10, ça fait des puissances 11, des choses comme ça, donc c'est des milliers de milliards de fois plus vite que la réaction se passerait de façon spontanée, et en général, les réactions catalysées qui se passent au sein des organismes sont accélérées de façon beaucoup plus efficace que ce qu'on sait faire à l'heure actuelle avec la chimie, et on observe un rapprochement très fort de la chimie et de la biochimie depuis un certain nombre d'années, avec des couplages de méthodes chimiques et de méthodes et de systèmes biologiques pour arriver à des transformations très précises, très ciblées, qui permettent d'obtenir des molécules nouvelles, soit des molécules existantes qu'on va produire en grande quantité, soit des molécules nouvelles. Après, la question numéro 2 sur les OGM.
Bien le micro devant. Le micro,
ouais, le micro bien voilà, devant. Voilà. Bon, ça, c'est un autre débat. La question des OGM, enfin, je pense que ce n'est pas du tout le sujet de ce soir, je ne veux pas l'éluder. Hein. La question des OGM, c'est. Les OGM, c'est une des façons dont on peut disposer pour modifier les capacités que vont avoir un être vivant, alors ça peut être une bactérie, une levure, une plante, leur ajouter des nouvelles fonctions, la nouvelle capacité de transformation, ajouter une nouvelle possibilité de c'est un des aspects des OGM, hein, mais leur donner une nouvelle capacité qui en général a été prise dans un autre organisme qui est capable de produire une certaine molécule. L'organisme qui nous intéresse est, fait beaucoup de choses, mais n'est pas capable de faire cette chose-là. Et on va chercher cette capacité dans l'autre organisme en isolant la partie d'ADN qui sert de modèle pour le fonctionnement de cette réaction et à le transférer dans l'organisme. Donc autour de ça, il y a plein de débats. Donc, je ne pense pas que ce soit l'objectif aujourd'hui de discuter de ça. Hein. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il y a des risques? Sachez que ça fait quand même que on parle beaucoup des OGM au niveau des plantes. Avec le souci que les plantes sont cultivées à l'extérieur, donc elles risquent d'être disséminées dans la nature, on maîtrise pas le fait que les graines vont s'éparpiller, etc. Il y a des OGM, les transformations génétiques sont très utilisées au niveau des micro-organismes, et si vous pouvez bénéficier de vaccins, d'antibiotiques, de tout un tas de médicaments et de molécules, ces produits pour beaucoup par des micro-organismes, OGM entre guillemets, on les appelle des MGM, mais qui sont cultivés dans des enceintes fermées, stériles, qui ne sont pas disséminées à l'extérieur. Mais ça fait vraiment partie des outils extrêmement importants. Un exemple, les premiers OGM, un des premiers OGM microbiens cultivés industriellement, c'était pour produire de l'hormone de croissance. Et l'alternative, c'était prélever une hormone de croissance dans l'hypophyse de cadavres, et ça a donné des problèmes de maladie de Creutzfeldt-Jakob, etc. Donc après, c'est toujours une question d'équilibre entre avantages et risques, de maîtrise du risque. Mais donc, par rapport à la discussion d'aujourd'hui, la possibilité de conférer des nouvelles caractéristiques à des organismes pour produire des molécules d'intérêt, ça fait vraiment partie des outils qui offrent un potentiel très important, même du point de vue de l'environnement, parce que ça peut permettre, par exemple, d'obtenir des réactions qui vont être beaucoup plus efficaces, qui vont générer moins de produits toxiques, consommer moins d'énergie, etc.
Je voulais peut-être poser la question à Joël Raymond. Je ne sais pas si ça vous parle, la chimie verte.
Mon voisin de droite en parle mieux que moi, je l'écoutais pendant le repas, et il a donné une très bonne définition, donc je vais lui passer le micro.
D'accord. Alors, ça sera pour Michel Vert.
Alors, la chimie verte, il y a beaucoup de définitions qui
courent. C'est pour peut-être un petit peu rejoindre ça, ce que vient de dire monsieur...
Pas tout à fait. Non, la chimie verte, il y a beaucoup de définitions actuelles, parce que c'est un mot à la mode. Ah, hein, c'est un mot à la mode. Le synonyme, c'est chimie durable. Hein. Donc la chimie verte, c'est une chimie qui va essayer, par des procédés, par des réactions chimiques, etc., par l'implication de produits chimiques provenant de la nature, de conserver, si vous voulez, le patrimoine de la nature actuelle. Hein, c'est pour ça qu'on appelle la chimie durable. Alors surtout à ne pas confondre avec la chimie qui exploite la biomasse, hein, qui va être une chimie industrialisée qui vise à remplacer la source pétrole
par une source biomasse, par une source naturelle. D'accord ? Et ne pas confondre non plus avec biodégradable ou etc., qui là est une restriction par rapport à ce qu'on appelle le bio-based en anglais, ou bien la chimie fondée sur la biomasse. Hein, pourquoi ? Parce que faire, si pour ceux qui sont très soucieux de l'environnement, faire, vous savez que les matières plastiques, les sacs en plastique, etc., posent des problèmes au niveau des déchets environnementaux. Eh bien, actuellement, on cherche donc à faire des matériaux qui soient dégradables, qu'on puisse éliminer. Eh bien, que l'on fasse, par exemple, un sac de polyéthylène. Vous savez, le polyéthylène, ça peut durer à peu près, la durée de vie, c'est entre 200 et 300 ans dans des conditions stériles. Un sac qui sera biostable, hein, qui va nous servir, qui va être un polluant visuel au moins. C'est pas un polluant chimique vraiment, c'est un polluant visuel, c'est un encombrant. Hein. Eh bien, qu'on le fasse à partir du pétrole, ou qu'on le fasse à partir de molécules de la biomasse, si vous voulez, ce sera toujours que du polyéthylène. C'est-à-dire que du point de vue environnemental, on n'a pas fait un grand progrès. Par contre, on a fait un progrès, si vous voulez, au niveau économique, éventuellement. Mais pour que ce soit intéressant au niveau économique, il faut que, on dit qu'il faut que l'évaluation du cycle de vie soit positive. Pourquoi ? Parce que remplacer un produit chimique d'une certaine manière, fabriqué d'une certaine manière, et le remplacer par un autre produit, il faut que ce soit positif par rapport à l'environnement, si vous voulez. Hein. Et donc il va falloir prendre en fait toute l'histoire d'une fabrication. On dit, les Anglais disent du berceau à la tombe, hein, de A jusqu'à Z, d'évaluer quels sont les coûts, mais pas les coûts nécessairement en argent, mais les coûts en environnement, hein, notamment l'impact sur l'environnement. Alors, je citais un exemple tout à l'heure, c'était une chaise par exemple, ça commence, c'est du bois, et bien on remonte à la graine par exemple, et on va prendre tout ce qui coûte de la graine à la chaise finie, voire à l'élimination de la chaise. C'est ça l'évaluation du cycle de vie. Et quand on fait ça pour des produits qui sont dérivés du pétrole et dérivés de la nature, eh bien, c'est pas toujours la nature qui gagne. Hein? Voilà où on en est actuellement. Alors, la chimie verte, c'est des procédés. Les Anglais utilisent même le mot philosophie, c'est-à-dire que c'est une philosophie qui veut que l'on préserve la nature. Hein? Alors que l'économie, la fabrication de produits, que ce soit des produits chimiques, des matières plastiques ou autres, qui viennent de la nature, c'est totalement différent. Et malheureusement, il y a beaucoup de confusion qui est faite dans les milieux politiques, journalistiques, etc. Mais je crois que, scientifiquement parlant, il faut faire la différence, parce que c'est très important au niveau du bilan écologique.
Ça vous inspire des questions, mesdames, messieurs ? Oui ?
Justement, pour revenir sur le problème des sacs plastiques, le premier matériel qui avait été testé un peu dans le département de l'Aude, c'était justement un mélange de polyéthylène avec de l'amidon de maïs. D'ailleurs, la matière première venait d'Italie à l'époque, c'était un procédé entre guillemets révolutionnaire. Et on se rendait compte qu'en fait, au bout de 3 semaines, le sac avait plutôt tendance à se fragmenter, donc il était plutôt biofragmentable. Biodégradable. Ensuite, le procédé avait été amélioré parce que ça avait été plutôt un mélange de polyéthylène et de fécule de pommes de terre. Et là, ça se dégradait quand même beaucoup mieux. Mais quelles sont les avancées dans ce domaine ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis ?
Monopoliser la parole, je vais répondre très précisément, oui. Parce qu'en plus c'est mon domaine, alors donc ça risquerait d'être long. Je vais essayer d'être bref. Vous avez parfaitement raison, les premiers sacs, malheureusement, le problème demeure. Maintenant, ce n'est plus du polyéthylène mélangé avec de l'amidon, parce que l'amidon se dégradait à la limite, mais le polyéthylène restait, bien entendu. Alors maintenant, on met des additifs chimiques qui sont vraiment pas sympathiques, c'est des complexes de cobalt et de nickel que l'on mélange avec le polyéthylène, et il y a des industriels, bien entendu, qui essayent de servir ça comme du dégradable. En fait, c'est toujours que du fragmentable, hein. Même des oxo-biodégradables. Avec les mots, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, on cherche à faire justement moi, ce que j'appelle des biopolymères artificiels. Alors, vous avez compris, vous avez eu la version du biochimiste qui vous a parlé des molécules dont nous sommes faits, nous aussi. Nous sommes faits de protéines, de polysaccharides et de polynucléotides, qui c'est l'ADN hein, qui contient notre patrimoine génétique. Donc, la nature a réglé son problème. Tout ce qu'elle sait fabriquer, en général, elle sait l'éliminer. Alors, que peuvent faire les chimistes ? Ben, les chimistes, ils essayent actuellement donc, de faire de la matière synthétique qui soit éco-compatible et qui soit éventuellement bio-recyclable, comme nous sommes nous-mêmes bio-recyclables, mais comme j'ai l'habitude de dire, on n'a pas de chance, parce qu'on n'est pas recyclable à l'identique. Hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on fait maintenant des polymères. Et alors, je ne savais pas que j'allais arriver si vite à la démonstration. Vous voyez, moi, je porte un t-shirt, là. Je n'ai pas l'habitude de porter un t-shirt, mais j'ai mis spécialement pour vous. C'est un t-shirt qui combine du coton avec un polymère qui est fait à partir de ressources renouvelables. En l'occurrence, c'est de l'amidon de maïs. Qui est fabriqué, la matière de base est fabriquée aux États-Unis, ça s'appelle le polyacide lactique. Alors l'acide lactique, c'est un produit chimique, bien entendu, on est là pour discuter, c'est celui qui vous fait mal quand vous faites du jogging ou vous faites trop d'efforts. Hein. Donc ce produit-là, on le prend comme une unité monomère, et on va les accrocher à un matériau plastique, c'est comme une chaîne de trombone, si vous voulez. Le produit chimique de base, c'est trombone, ça c'est la chimie organique, et la matière plastique, c'est l'ensemble des chaînes. Eh bien là, on prend l'acide lactique, que l'on trouve dans mon voisin biochimiste, sait très bien qu'on va le trouver dans le cycle d'oxydation du glucose. Voilà, bon, on peut faire plein de choses. Et voilà, et on va en faire un polymère. Et là, ce t-shirt, c'est un combiné de coton, hein, bien entendu, et à la place du tergal, vous savez ce que c'est le tergal, hein, c'est du polyéthylène. D'éthylène téréphtalate en termes scientifiques, et bien là on met du polyacide lactique. Et je vous assure, si vous voulez, tout à l'heure vous pourrez le toucher. C'est super.
On allait vous le proposer. Alors
c'est
ça
sûr, super sympa à porter. Je vous assure que c'est beaucoup plus agréable.
Ça vous va bien.
C'est beaucoup plus agréable que à porter. Alors quel est le problème ? C'est qu'actuellement, produire ce polymère à grande échelle, parce que quand on parle de matériaux plastiques, on a dit tout à l'heure qu'on en mettait partout, c'est tout de suite en centaines de millions de tonnes que ça se passe. Et le problème, c'est que transformer par fermentation de l'amidon en acide lactique, puis ensuite en polymère, c'est très complexe et ça nécessite énormément d'eau parce que c'est une fermentation bactérienne. Et là, pour l'instant, ce sont les Américains qui ont maîtrisé la synthèse au niveau industriel, mais le maximum qui est en unité de production, c'est 140 000 tonnes. C'est-à-dire que ça ne suffit pas à faire beaucoup de choses, je l'en ai amené. Hein. Vous pouvez faire du film, vous savez, du film pour les micro-ondes, non ? Voilà, je peux vous le donner, on peut faire, attendez, je garde le meilleur pour la fin, on fait des sacs, non ? D'ailleurs, il commence à se dégrader, oui. J'ai un rasoir. J'avais une paire de lunettes. Et bon, celui-là, je vous le donnerai à toucher, mais je ne l'ai pas mis moi-même. C'est un slip. Ce slip-là est entièrement compostable. C'est-à-dire que c'est dégradable, mais dans des conditions industrielles de compostage. Si je le laisse dans la rue, il va rester. Par contre, si je le mets dans une usine de compostage, et ça intéresse les municipalités, il va disparaître comme disparaissent vos épluchures de bananes.
Ça nous amène à la chimie de demain.
La chimie de demain.
Mais bien sûr que vous pouvez poser une question, madame.
Oui, je voulais vous demander, qu'en est-il du caoutchouc qui est une matière naturelle issue d'un arbre ? On dirait que c'est plus à la mode ou que ça a disparu, mais bon, les chimistes vont me répondre.
Je peux répondre parce qu'en fait j'ai des projets sur le caoutchouc naturel.
Éric Dubreuil, oui.
Le caoutchouc naturel à l'heure actuelle, ça représente encore 40% du caoutchouc mondial. Donc, et le caoutchouc, c'est le premier élastomère mondial utilisé. Donc c'est pas du tout perdu de mode le caoutchouc naturel. Au contraire, il y a beaucoup de travaux qui portent sur le caoutchouc naturel pour différentes raisons. La première raison, c'est que on n'arrive pas à faire du caoutchouc synthétique aussi bon que le caoutchouc naturel. Donc ça, c'est la première raison. Donc tout tout matériau en caoutchouc qui a besoin de caoutchouc de très haute qualité, les pneus d'avion, les amortisseurs de TGV, les joints de fusée, les supports antisismiques de bâtiments sont en 100% caoutchouc naturel. Un pneu d'avion en caoutchouc synthétique qui fait deux atterrissages, il explose. À part les pneus vraiment de très bas de gamme, pas cher, tous les pneus automobiles ont au moins la bande de roulement, celle qui est au contact avec le sol, celle qui reçoit le plus forte contrainte, qui est en caoutchouc naturel. Et après, tout ce qui est gants en latex, etc., c'est... si vous avez eu l'occasion d'essayer des gants de ménage qui s'étirent très mal, ceux-là sont en synthétique. Les gants en latex qui très souples, très doux, sont en caoutchouc naturel. Les préservatifs sont en caoutchouc naturel, etc. Donc c'est un produit naturel qui est très utilisé. La production mondiale, c'est de l'ordre de 10 millions de... Ouais, je pense que c'est 10 millions de tonnes par an, l'ordre de grandeur. Donc c'est et les travaux à l'heure actuelle portent essentiellement sur la maîtrise de la variabilité de la qualité. On est sur des produits naturels. La qualité du caoutchouc naturel est toujours supérieure à celle du caoutchouc synthétique. On fait du caoutchouc synthétique qui théoriquement a la même structure chimique que le caoutchouc naturel, mais dans le caoutchouc naturel il y a des choses en plus qui change complètement les propriétés. Donc là, il y a des choses. Après, il y a des travaux à l'heure actuelle pour trouver d'autres sources de caoutchouc que l'EVA, qui est un arbre qui pousse dans les pays tropicaux, qui est un arbre qui présente dans certains pays un certain nombre de risques parce qu'il y a des maladies, notamment en Amérique du Sud, qui plombent la production. Et donc il y a des travaux sur l'EVA, et puis il y a des travaux sur le guaiule, le pissenlit russe, etc. Des sources autres de polysoprène, enfin de caoutchouc, qui ont peut-être des propriétés un peu différentes. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout en perte de vitesse.
Michel Vert, vous vouliez ajouter.
Vous connaissez la lutte des polices, là il va y avoir un petit peu de la lutte entre disciplines. Vous avez raison de poser la question, et la réponse a été celle du biochimiste. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le caoutchouc naturel, s'il n'y avait pas le chimiste derrière, il servirait à rien du tout. Pourquoi ? Parce que le caoutchouc que vous connaissez, les pneus de voiture, les pneus d'avion ou autre chose, c'est vulcanisé. Et c'est vulcanisé par quoi ? Par du soufre. On peut se vulcaniser ou autre chose. Donc s'il n'y avait pas le chimiste derrière pour améliorer les propriétés, alors, il y a un petit inconvénient à la vulcanisation. Je suppose que vous ne savez pas ce que c'est. Du caoutchouc, c'est des espèces de spaghettis tout droit, là, comme ça, un peu en zigzag, mais peu importe. Et puis, si vous les laissez comme ça, eh bien, les molécules vont glisser les unes à côté des autres. C'est-à-dire qu'au départ, le latex pur, est un liquide, ce n'est pas du tout du caoutchouc comme on le connaît. Alors, aussitôt qu'il est produit, il s'oxyde très vite. Alors là, le biochimiste peut certainement en dire beaucoup. Il s'oxyde très vite, il y a des protéines qu'on retire, etc. Mais ensuite, le chimiste va le réticuler, c'est-à-dire qu'entre les spaghettis, hein, on va faire des petits ponts, des liens entre les deux. Et c'est ça qui va donner la cohésion des macromolécules, hein, et qui donne les propriétés exceptionnelles que Eric Debroek soulignait avec le caoutchouc artificiel, le caoutchouc naturel et le caoutchouc artificiel. Alors on sait en faire en laboratoire, mais ça coûte beaucoup plus cher, il faut des catalyseurs spéciaux, etc.
D'autres questions? Merci de cette précision. Monsieur?
Oui, on a abordé ici la chimie sous l'angle pratique, je dirais industriel, et il me semble qu'on mélange un petit peu ce qui est de la chimie, la science, et puis de ce qui est de l'application, de ce qu'on a besoin pour vivre, etc. Et il me semble que la chimie, quand même, elle a plus de 3 siècles, parce qu'elle est devenue science avec Lavoisier, mais les hommes ont regardé depuis longtemps les électrons sans le savoir qui se mélangeaient. Mais il me semble que dire la chimie du futur et ne le voir que sous l'angle industriel, c'est peut-être pas chercher qu'est-ce qui va être la découverte, qui va être l'événement scientifique qui va orienter les choses. Parce que pour le moment, vous nous parlez des orientations, c'est l'industrie, nous, c'est notre mode de vie, c'est notre recherche, on a besoin de plastique, on a besoin... mais il va y avoir forcément des découvertes qui vont faire obliquer les choses. Par exemple, je sais pas, enfin, bon, le graphène, on peut parler de ça, ou par exemple, des grandes expériences qui sont faites pour savoir l'origine de la chiralité, par exemple, aujourd'hui, parce que bon, le problème de la vie, entre autres, il est celui du fait que les molécules ne se mélangent pas de façon arbitraire et statistique, elles se choisissent. Et donc, un des gros problèmes, c'est pourquoi les molécules de la vie sont gauches et quelle est à l'origine. Et ça, par exemple, c'est une grande question que les chimistes ont à résoudre. Et par exemple, ça, c'est un grand problème qui est que les chimistes sont certainement les plus appropriés à régler. Parce qu'il me semble qu'ils ont la pratique. Le chimiste de synthèse, aujourd'hui, lorsqu'il aborde la synthèse pour un médicament, il est obligé de maîtriser la structure profonde, la structure intime, et ça suppose un savoir-faire compliqué, en particulier toute la synthèse asymétrique, qui n'est pas facile, la nature le fait très bien, et les hommes sont beaucoup plus laborieux. Nous sommes les chimistes, et j'en suis un, nous sommes beaucoup plus laborieux par rapport à ça. Donc si vous voulez, moi je crois que l'industrie est une chose, elle nous amène à des modes de vie. La réussite de la chimie et de la synthèse a fait qu'aujourd'hui, on sait synthétiser des milliers, voire millions de molécules nouvelles, que seul l'homme sait faire, que la nature ne sait pas faire. Mais aujourd'hui, on se retrouve devant le problème de notre réussite de chimiste. C'est que on a créé un monde où l'abondance de nos... Par exemple, la réussite pharmaceutique, la réussite pose le problème des hôpitaux qui éliminent tous ces médicaments qui sont métabolisés et puis que notre collègue retrouve en bout de chaîne. Et ça, c'est un gros problème. Et ça, c'est notre réussite et qui pose problème. Mais je veux dire, quand même, la chimie, elle est tirée par des grandes découvertes. Elle est tirée par l'industrie qui appelle, mais elle est tirée par des grandes découvertes. Alors, quelles sont ces grandes découvertes aujourd'hui? Moi, je ne sais pas, je vous pose la question. Moi, j'ai quelques idées. Il me semble que ça peut ouvrir le débat.
Bon, ben, on peut dégager les grandes lignes de la chimie actuelle tournée vers le futur. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle le nano-world, l'extrêmement petit. On sait... Je pense que les physiciens seront pas loin derrière, les chimistes. On sait que la matière, quand on arrive au niveau presque moléculaire, c'est-à-dire on dit le nanomètre, hein, c'est 10 puissance moins 9 mètres, 1 milliardième de mètre. Quand on est à ce niveau-là, la matière n'a plus du tout les mêmes propriétés que la matière macroscopique. Et actuellement, il y a d'énormes efforts qui sont faits en chimie, qu'on appelle inorganique ou minérale, ou en chimie organique, ou en chimie des macromolécules, pour étudier et tirer parti, je suis désolé parce que derrière la chimie, il y a toujours une notion d'application quand même, hein, mais tirer parti de ces nano-worlds. Hein. Alors vous avez les nanotubes de carbone, vous avez les ballons de football de carbone, hein, qui sont des échelles à l'échelle moléculaire, vous avez les macromolécules, qu'elles soient d'origine biologique ou celle que nous étudions, sont des matières que l'on sait descendre jusqu'au niveau nanométrique. Hein, et tout à l'heure, on pourrait évoquer tous les deux l'ADN. L'ADN est une espèce de mitigé entre une molécule et une matière, puisque l'ADN, c'est une molécule en épaisseur, mais en longueur, ça peut faire combien? Un mètre ou quelque chose comme ça, mais pas, c'est une longueur énorme. Hein. Bon. Donc, si vous voulez, il y a ce domaine-là. Le deuxième domaine qui est à l'étude actuellement et qui donne des résultats assez spectaculaires, c'est la catalyse. La catalyse, en particulier dans les milieux hétérogènes, et notamment les milieux poreux, avec des porosités très petites. Et avec des catalyseurs extraordinaires, maintenant, on arrive à faire des choses remarquables, y compris de la synthèse chimique chirale. Hein? Vous avez d'autres domaines, vous avez l'activation chimique par les ondes, par exemple, les micro-ondes, etc., la sonométrie. Et vous avez tout ce qui concerne la chimie tourné vers la biologie. Et ça, c'est un moteur extrêmement important. Et ça m'amène, pourquoi je vais dans ce sens-là, c'est que ça m'amène à votre deuxième partie de question, qui est aussi quelque chose qui me chiffonne beaucoup, parce que, un, j'ai fait ma thèse sur la chiralité, donc je sais de quoi je parle. La chiralité actuellement, il y a quelques théories qui existent avec de la chimie qui serait faite sur des cristaux polarisés, etc. Il n'y a rien de démontré sur la chiralité. Mais avant, et là on va rentrer dans un domaine presque philosophique, parce qu'on est dans le noir total, c'est l'origine de la vie. D'ailleurs, je vous invite à suivre, il va y avoir un colloque à Montpellier bientôt, au mois de juin, je crois, sur les origines de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les origines de la vie? Ben, pas grand-chose. Actuellement, les origines de la vie, où la science a pu avancer en termes de chimie, c'est ce qu'on appelle le monde ARN. C'est-à-dire qu'on sait à peu près, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer d'être très simple, mais vous me corrigerez si je suis vraiment trop simple. La vie est fondée sur des molécules, et même des macromolécules. C'est-à-dire que pour que la vie fonctionne, les éléments extrêmes de la base, c'est quoi? C'est l'ADN, tout le monde sait ce que c'est à peu près, ou un, qui contient notre patrimoine génétique, et c'est une macromolécule, hein, c'est encore une série de trombones très complexes, c'est certainement la structure la plus complexe qui existe dans le monde, mais c'est celui qui contient toute la... Mais pour faire l'ADN, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des protéines, et un ARN. D'accord? Il faut les trois en même temps. Or, un ADN, c'est constitué par une chaîne macromoléculaire qui contient un phosphate et un sucre, et en plus, quatre bases. Et ces quatre bases-là, on va les appeler A, B, C, D, selon leur arrangement, eh bien, par trois bases, elles codent pour un aminoacide, lesquels aminoacides font les protéines. Et il y a 20 aminoacides dans les protéines qui font, hein, on est d'accord, qui servent à faire toutes nos protéines. Les cheveux, les ongles, la peau, etc. Conceptuellement, actuellement, moi je dis qu'on ne sait pas, et d'ailleurs personne ne l'avance, on ne sait pas comment ça a pu démarrer. On parle d'une soupe de chimie, de molécules au fond des océans, là où il faisait très chaud, etc. Mais c'est tout ce qu'on sait faire. Or, moi, nous qui synthétisons des macromolécules, c'est-à-dire qu'on accroche les petites unités, eh bien, on ne sait pas faire. On ne sait pas avoir une macromolécule de synthèse qui se reproduit elle-même. Or, c'est la base de la vie. La vie, c'est simplement la capacité à se reproduire. Donc on ne sait pas qu'il y a actuellement, c'est zéro, si on regarde scientifiquement. Alors bien entendu, il y a des gens qui savent, ils gagnent leur vie comme ça. Mais scientifiquement parlant, moi je dis qu'on n'a pas d'informations sur les vraies origines de la vie, c'est-à-dire comment des molécules sont faites. Alors, on revient à la chiralité, peut-être tout le monde ne sait pas, mais les protéines sont faites avec une seule. Enfin, si vous voulez, la chiralité, ça vient du mot main en grec, c'est la symétrie. La symétrie qu'il y a entre nos mains. Eh bien, toutes les protéines sont faites avec une seule main. Il y a peut-être un monde à côté où elles sont faites toutes de l'autre isomère, on dit, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, vous voyez, il y a une complexité chimique à la base de la vie que les chimistes actuellement sont incapables, un, d'expliquer, deux, de reproduire, bien entendu. Enfin, moi, c'est ma vision des choses.
c'est de la philosophie.
Bon, mais je ne suis pas spécialiste de l'exobiologie, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, il y a quand même une expérience qui a été faite il y a 50 ans, dans laquelle on avait mis du méthane, de l'azote, et puis qu'on avait fait une décharge, et puis qu'on avait trouvé un acide aminé, et non, qui était le mélange racémique, hein, racémique. Donc ça, c'était une première expérience qu'il y a 50 ans. Donc je dis ça parce que il y a aussi quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, les astrophysiciens viennent rejoindre la chimie. Aujourd'hui, grâce aux satellites, l'observation de l'univers permet aux astrophysiciens de dire quelles sont les molécules qu'il y a à l'heure actuelle dans l'univers. Ils ont détecté à peu près 150 molécules, un peu plus, enfin je ne sais plus combien c'est maintenant, qui sont dans l'univers. Hein, il y a des molécules carbonées, il y a même des molécules phosphorées. Des aminoacides ? Non, pas encore.
Il y a des aminoacides sur des astéroïdes.
Oui, on a trouvé un aminoacide sur le...
Soi-disant.
Oui.
Je répète, il y a des aminoacides qui, soi-disant, ont été trouvés dans les astéroïdes. Alors, je ne sais pas, par contre, l'astrophysicien peut peut-être nous dire, est-ce que ce sont sur les météorites ou sur les astéroïdes?
C'est le météorite Murchison qui a été trouvé en Australie en 1968. On a détecté un acide aminé, plusieurs acides aminés.
Plusieurs, oui.
Voilà. Donc, ça...
Oui, mais moi, en tant que chimiste, je pose une question, parce qu'on sait très bien que les météorites, quand elles rentrent dans l'atmosphère, vous les voyez, hein, c'est les étoiles filantes, voilà, ça vient, j'ai le mot anglais qui vient, mais pas le mot français, étoiles filantes, elles sont à une très haute température, et moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe quand on a de la haute température qui traverse un milieu oxygéné, hydrogéné, etc. Je ne suis pas sûr qu'on puisse pas faire, avec du méthane, puisqu'il entraîne dans l'atmosphère, qu'on ne puisse pas faire des aminoacides à ce moment-là. Donc, on peut discuter très longtemps. Et ce n'est pas parce qu'on sait faire 3 ou 4 aminoacides, même 20 aminoacides, que l'on peut mélanger les uns à côté des autres. Je vous paye des cerises, moi, si vous arrivez à les lier d'un point de vue chimique, avec la chimie qu'on connaît actuellement. Hein.
Bien, oui, c'est vrai, on ne va pas pouvoir faire un débat comme ça. Peut-être qu'on peut essayer de voir aussi... Oui, vous vouliez intervenir ? L'autre côté aussi de la chimie, en fait, je ne sais pas, je me disais... Moi, je pensais à la chimie alimentaire. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui vous intéresserait, mesdames, messieurs. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui... Oui, mais bien sûr.
On a abordé les OGM rapidement et c'était pas le sujet de la soirée, tout du moins. Là, on a parlé de nano, vite aussi, c'est aussi sujet à une soirée complète. Par contre, ce que disait monsieur tout à l'heure, au niveau des recherches, on s'oriente et on est mené toujours par l'industrie parce que nos vies démultiplient. Le nano, il y a des gens qui, depuis essaye de faire des recherches sur des choses utiles pour le retraitement des déchets, par exemple faire des petites machineries nano, et on voit le nano partir dans le textile, et là on se dit ça fait plein de petits trucs qui vont partir dans l'air, qu'on va utiliser, on ne sait pas ce qu'on va en faire de ça. Ça, je trouve ça inquiétant, et je trouve que la nature, elle a toujours un cycle qui semble se boucler, comme vous le disiez tout à l'heure, alors que nous, lorsqu'on produit des choses, on arrive toujours, pas à des catastrophes parce qu'on va les maîtriser sans doute, mais à des déchets, là, une dispersion de tout un tas de matériaux comme ça dans l'air, on ne sait pas du tout où ils vont aller ni ce que ça va donner.
Vous avez parfaitement raison, et actuellement on se pose de très sérieuses questions justement sur la toxicité de ces nanoparticules, probablement certaines le sont, et bon, là aussi, toxicité, ça comprend un vaste domaine, mais pour l'instant, on se pose des questions, et il y a des systèmes nanoparticulaires qui sont toxiques pour les cellules humaines. Hein, ça se passe selon...
Dans la même rubrique, on parlait de l'air, mais l'eau. Alors, l'élimination des déchets dans l'eau, et toutes ces choses, enfin, pas forcément des nanoparticules, mais je voyais qu'on faisait pousser des plantes, qu'on laissait, enfin, on faisait pousser certains types de plantes, qu'on faisait passer l'eau à travers et que pratiquement tous les déchets en étaient éliminés à 98%. Enfin, je lisais, on voit ça à la télé sur FR3. Qu'est-ce qu'il en est de l'élimination de toutes les choses toxiques ou toutes les molécules qui se trouvent dans l'eau avant leur rejet? Est-ce qu'on arrive vraiment à tout faire aussi bien que ça, ou bien est-ce que c'est sujet à caution?
Moi, je peux vous apporter une partie de réponse sur le traitement de l'eau lorsque on souhaite la rendre potable, notamment par rapport à des substances comme les pesticides. Donc c'est vrai qu'à travers différents filtres, jusqu'à présent, on arrivait rendre une eau de qualité, de bonne qualité pour la potabilité. Cependant, il y a toujours ce souci de recherche derrière en termes de technique analytique, notamment sur les pesticides. On n'avait pas ce recul que l'on a aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que certains systèmes de traitement n'étaient pas suffisants pour certaines particules. Donc je dirais que malgré les recherches et par rapport à l'évolution des substances chimiques que l'on peut retrouver, je me place en termes régaliens là pour le coup, je prends ma casquette service de l'État. C'est vrai que on a un temps de retard et on a toujours du mal à tout connaître et à tout savoir sur une qualité fine de l'eau. Je prends un exemple tout simple, c'est la problématique du glyphosate, qui est le fameux Roundup que tout le monde connaît. Il faut savoir que c'est en effet un herbicide qui est biodégradable, comme son nom l'indiquait, mais il se dégrade à une substance, un aminophosphonate, qui s'appelle l'AMPA, et qui est, je dirais, aussi dangereux que la substance de base. Et le problème qui nous pose aujourd'hui en termes de qualité de l'eau potable, c'est que on ne peut pas, avec les filtres à membrane, le traiter. Il passe à travers ces filtres-là. Donc voilà une réponse par rapport à, je dirais, moi en tant qu'agent et qui essaye d'avoir une lecture claire de la qualité. Ça ne veut pas dire que toutes les eaux ne sont pas potables. C'est un cas que je vous exprime maintenant. Après, je pense qu'il y a des systèmes épuratoires. Je vais passer la parole à des experts. Je ne sais pas, Eric peut-être, ou...
Michel Cornelier, oui. Je ne suis pas non plus expert de l'épuration, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, après qu'on ait eu à traiter les premiers problèmes biologiques et des grosses molécules qu'on allait chercher, les nitrates, etc., on se rend compte aujourd'hui qu'on retrouve dans l'eau potable un certain nombre de molécules, notamment, c'est vous qui en parliez, par rapport à tout ce qui est issu de l'industrie pharmaceutique. Des molécules, donc là aussi encore un coup un cocktail, hein, puisque ça dépend de ce que les gens ont pris et ont rejeté dans le milieu, et qu'en fait qu'on ne sait pas traiter en amont, donc ça veut dire qu'on ne sait pas épurer à la station d'épuration, donc qui arrive à l'eau du robinet, et que de toute façon on ne sait pas traiter non plus derrière dans les stations de filtration avant de leur mettre dans le milieu. Et donc on est peu en train de se demander si on n'est pas en train de jouer à des molécules qui se promènent, qui rentrent dans les organismes, qui en ressortent, qui retournent dans le milieu. Et ce problème des molécules liées à l'industrie pharmaceutique est un des problèmes que tous les producteurs d'eau ont en ce moment dans le collimateur. Tant qu'on ne les recherche pas, on ne les trouvera pas, mais on commence à avoir une vague idée de ce qu'on est en train de trouver dans l'eau.
Michel Cornelier, c'est pas une boutade quand vous dites que si je buvais l'eau du robinet, je serais guéri de diabète.
Du diabète. Bah, la samvastatine, qui est un des médocs les plus courants pour tous ceux qui ont un diabète B, et j'en suis, qu'on bouffe à quantité où on en met suffisamment, mais s'il y en a trop, c'est pas grave. S'il y en a trop, effectivement, ça repasse via les toilettes et ça va se retrouver remis dans le milieu. Et il y a quelques comme ça molécules qu'on a retrouvées, qui sont les molécules qui correspondent à la grosse consommation de nos concitoyens. Donc il y a samvastatine, il y a des antidépresseurs, et à Barcelone, il y a de la cocaïne aussi. C'est véridique, ça.
Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Dubreuil?
Non, ce point-là, ça représente, c'est un des enjeux aussi de la chimie durable, de la chimie verte, hein. C'est intégrer le devenir des molécules qu'on produit, et intégrer leur devenir dans l'environnement, réfléchir trouver d'autres molécules ou trouver des moyens de les piéger. Donc ça fait partie des enjeux évidemment de la chimie, ça c'est clair.
Alors je proposais tout à l'heure peut-être de partir sur la chimie alimentaire et je pensais comme ça bêtement à mon steak tartare d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il sera demain ?
Synthétique. La viande, sont des protéines, et on sait faire des protéines synthétiques. Enfin, c'est pas nouveau, hein. Il y a eu du steak synthétique qui a été fait il y a déjà longtemps. Le problème, encore une fois, on va revenir à l'industrie, c'est de pouvoir le produire, bien sûr.
Oui. À l'époque, pour rappeler, parce qu'un des aspects qui a été tout à l'heure, quand Michel Vert a parlé de chimie verte, chimie durable, bon là, il y a un débat entre les agronomes, les chimistes. Moi, j'interagis beaucoup avec des chimistes. Je coordonne une formation qui est commune aux ingénieurs chimistes et aux ingénieurs agronomes de Montpellier sur la chimie verte et durable. On l'appelait dans le sous-titre chimie verte et durable. C'est un terme qu'on retrouve un peu partout parce qu'effectivement, il y a la définition du côté moins de pollution, procédés plus efficaces, etc. Mais un aspect dont on n'a pas souligné tout à l'heure, c'est la durabilité par rapport à la matière première. Et donc la matière première essentielle de la chimie, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est renouvelable à l'échelle de centaines de millions d'années. Et donc un des enjeux quand même de la chimie verte et durable, c'est aussi de remplacer en partie le pétrole par des sources de carbone, de molécules qui soient renouvelables, et donc notamment les sources végétales, les plantes prélevant le carbone de l'atmosphère à l'année N et à l'année N plus 1, une fois qu'on les a récoltées. Si on détruit les molécules produites, les sacs en plastique, le carburant, c'est du CO2 qui est rendu à l'atmosphère sans que le bilan global soit, en théorie, affecté. Donc ça fait aussi partie des enjeux quand même importants de la chimie verte.
Je crois que Michel Cornuet n'est pas du tout d'accord avec vous.
Non, c'est pas... non, c'est pas que je suis pas du tout d'accord. Je crois que d'abord, il y a un concept là moi, qui me séduit, c'est ce concept de cycle de vie. Effectivement, le jour où les chimistes, les fabricants de matières plastiques imagineront la chaîne en entier, de sa fabrication à sa restitution au milieu d'une façon ou d'une autre, oui, là je pense qu'on aura fait un grand pas en avant, quoi. Mais je suis un peu inquiet en ce moment de ce greenwashing là, où tout devient vert, les bagnoles sont vertes, bientôt les centrales nucléaires vont être vertes, la chimie est verte. Enfin, chaque fois qu'on est dans une technologie un peu dure ou qu'on a du mal à faire passer, la seule solution pour la vendre en ce moment, c'est de la verdir un peu, quoi. Donc on repeint les bagnoles en vert et ça me convainc à moitié quand même tout ça.
Bon, vous m'avez coupé l'air sous le pied, si je puis dire. C'est que vous avez dit pour la vendre. Et en fait, malheureusement, de nos jours, tout est à vendre. Et tout est commandé par la vente. Alors, je vous écoutais parce que on a entendu parler des médicaments, hein, des principes actifs qui atterrissent dans l'eau. On a entendu parler de déchets, de pétrole ou d'autres, tout ce qui sort d'une voiture, etc., qui va dans l'eau. Et moi, je suis spécialiste des polymères. Et vous savez ou vous ne savez pas qu'il y a énormément de matières organiques synthétiques, donc qu'on appelle des polymères, qui ne sont pas des plastiques, hein, qui sont utilisées tous les jours sous forme de solution. Alors, quel est celui d'entre vous qui n'a pas fait de la peinture acrylique ?
Voyez cette peinture formidable qu'on passe sur le mur à l'eau et qu'a pas jeté le reste de sa peinture ou nettoyé ses pinceaux dans l'évier pour le faire partir, etc. Non, mais que celui qui l'a jamais fait lève la main, à part que ce, et on exclut ceux qui n'ont jamais bricolé, bien entendu.
Alors je suis excusé, ça va.
Donc, et vous en avez dans les cosmétiques. Toutes les cosmétiques, mesdames, que vous utilisez, puis les hommes aussi maintenant, c'est bourré de polymères, plus ou moins hydrophiles, plus ou moins des moisturizers, hein, qui vous en avez dans les shampoings, partout. Des milliers de tonnes, des dizaines, des centaines de milliers de tonnes qui partent dans les eaux usées. Eh bien, j'ai fait faire une thèse récemment. Actuellement, la majorité des polymères qu'on appelle acryliques, alors vous savez, les agents anti-redéposition, ça vous dit quelque chose, non? Eh bien, tout ça, ça part dans les usines de retraitement. Et selon qu'ils sont piégés dans les boues, ils ne sont pas dégradés, hein, dans les boues, ou bien qu'ils restent solubles, ils partent dans l'eau de rejetée. Et donc, ils sont dans la nature. Mais comme c'est pas facile de les quantifier, puis personne ne s'est penché dessus, et l'industrie de ces matériaux-là ne tient pas du tout à ce qu'on aille dire dans tous les coins qu'ils sont biostables, alors que tout le monde le sait, eh bien, là, il y a un petit problème. Alors moi, quand je fais mes cours, je dis qu'on risque un de ces jours de boire un pastis avec de l'eau qui sera extrêmement visqueuse, comme de la peinture, si vous voulez. Hein, parce que, bon, j'exagère, bien entendu.
Une question.
Oui, je vais revenir un peu à une question verte. C'est les algues, justement, qui sont utilisées dans l'industrie cosmétique, mais également, là, je ne sais pas, récemment, certaines algues qui ont été étudiées au niveau de l'Espagne, là, pour fabriquer du pétrole, apparemment, qui servirait à la fabrication d'un pétrole, entre guillemets, vert.
On y revient.
On revient aux alternatives au pétrole comme source de carbone. Tout à l'heure, en fait, quand j'avais évoqué, en fait, c'était en réponse à votre question sur l'alimentation, pour rappeler que dans les années 70, on faisait des steaks à partir du pétrole.
Oui.
À l'époque, il y avait beaucoup de pétrole. Enfin, entre les crises, voilà, entre les crises pétrolières, il fallait nourrir la planète. Et donc, on cultivait des micro-organismes sur du pétrole ou du méthanol, produit chimique extrêmement sympathique, pour produire des protéines, on faisait des steaks. Enfin, ça s'est pas vraiment développé, mais... bon. Donc, par rapport à votre question sur les algues, ça fait partie des enjeux, un des enjeux à l'heure actuelle, qui est lié à la substitution du pétrole par des ressources renouvelables, hein, donc des plantes, hein, en gros, hein, des plantes, du bois, donc c'est la quantité, parce que du pétrole, on en consomme annuellement, j'oublie toujours le chiffre tellement c'est astronomique, mais je ne sais plus les chiffres, c'est la quantité de pétrole consommée annuellement, s'il fallait la remplacer par des plantes, il faudrait plus manger quasiment. Voilà, donc toute la production agricole de la planète servirait à remplacer le pétrole qu'on brûle annuellement pour faire à 92% du carburant et à 7-8% de la chimie. Donc il y a un gros enjeu par rapport à ça. C'est que déjà à la base, il faut bien se dire qu'on sera incapable de remplacer le pétrole comme carburant liquide par de la biomasse, parce qu'on est incapable de produire suffisamment de biomasse pour remplacer le pétrole. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'en remplacer une partie ou le plus possible. Et donc là, on tombe dans les carburants d'origine végétale. Donc dans vos pleins, alors si vous avez des véhicules diesel, vous avez 5 à 7% de ce que vous mettez dans votre voiture qui est issu d'huile de tournesol ou d'huile de colza. Dans l'essence, il y a de l'éthanol qui est produit par fermentation avec des levures, les mêmes levures qui servent à faire le vin ou la bière, à partir de blé, de betterave, de maïs. Mais ça, ce sont les cultures conventionnelles qui servent aussi à l'alimentation, qui sont cultivées dans des champs de qualité agricole. Et donc, et à l'heure actuelle, par exemple en France, on est arrivé, on exploite, toutes les terres disponibles sont exploitées pour produire, en dehors de la production alimentaire qui n'est pas touchée à l'heure actuelle, le reste est utilisé pour produire du biodiesel. On produit 2 millions de tonnes par an, rien que pour la France. Et donc, un des enjeux, c'est de trouver d'autres sources, soit d'huile, pour faire l'huile qui sert à faire du diesel, soit du sucre qu'on fermente en alcool pour remplacer l'essence. Et donc, une des possibilités, une des idées, c'est se dire, bon, on évite tout ce qui est plantes alimentaires, à usage alimentaire, toutes les plantes classiques, qui étaient bien pratiques parce qu'on savait déjà les cultiver, les filières existaient, on sait depuis longtemps distiller, faire de l'alcool, faire du biodiesel. On a utilisé des usines qui servaient à faire de l'alcool, pour des alcools gras pour la cosmétique. Donc il y avait des filières en place, et maintenant il faut remplacer ça. Donc il y a deux grandes voies, donc c'est les secondes générations, troisième génération. C'est tout ce qui est lignocellulose, le bois, les déchets de bois, etc. Le problème, c'est qu'on ne sait pas bien l'utiliser. Donc on n'a pas de procédé qui marche, parce que le bois, c'est compliqué, c'est pas très biodégradable. Hein. Mettez un bout de bois dehors, vous pouvez attendre un certain moment avant qu'il soit biodégradé. Et l'objectif, c'est de le débobiner en sucre pour pouvoir fabriquer de l'alcool faire fabriquer de l'alcool par des levures. Donc il y a beaucoup de travaux sur l'optimisation des procédés de transformation du bois en alcool, par des procédés de thermochimie, on peut faire des équivalents de pétrole, etc. Et puis après, la deuxième grande solution sur laquelle les gens travaillent depuis... aux États-Unis, ils y travaillent depuis pas mal de temps. Dans le monde entier, ça fait 4-5 ans qu'il y a grand engouement par rapport à ça. C'est de dire, dans les surfaces non exploitées, point de vue agricole, il y a l'eau, les étangs, la mer, etc. Et là-dedans, on a des plantes, des organismes qui sont capables d'utiliser la lumière comme source d'énergie, d'utiliser le gaz carbonique de l'atmosphère qui est en train de s'accumuler, qu'on veut justement chercher à éliminer, et qui sont capables de transformer ce gaz carbonique en sucre, ou en huile, ou en différents composés, simplement en utilisant la lumière, les minéraux, etc. Donc des plantes microscopiques qui se développent relativement rapidement. Et donc il y a beaucoup de travaux qui visent à développer des cultures d'algues, soit des micro-algues, qui sont des micro-organismes photosynthétiques, soit des macro-algues, donc c'est des plantes qu'on va trouver dans l'équivalent de plantes, mais marines. Hein, et pour en faire des carburants, parce qu'on se dit que là, c'est une source d'alcool, c'est une source d'huile pour faire du biocarburant, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de travaux, il y a quelques développements industriels. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des développements industriels qui sont liés au fait qu'il y a des algues qui servent à l'alimentation. Hein. Il y a des pays qui se nourrissent avec des spirulines qui sont cultivées dans des étangs, hein, qui servent en Asie, en Afrique, c'est des sources d'aliments. Et puis il y a des algues qui sont cultivées depuis longtemps pour faire des colorants, du carotène pour la cosmétique, pour donner une belle couleur jaune à la margarine, etc. Et puis donc on sait à peu près cultiver un certain nombre d'algues, mais il y a beaucoup de choses à faire pour réussir à faire des productions quantitatives. Il y a un problème quantitatif. Il y a des problèmes techniques, il faut réussir à faire les choses correctement. Le bois, techniquement, on ne sait pas bien l'exploiter. Mais il y a un gros problème qui est du quantitatif. On veut remplacer, dans quelques dizaines d'années. Ce pétrole, ça libère du CO2 qui était enfoui depuis des millions d'années, qu'on libère en quelques années. Donc on va utiliser des plantes à la place, comme ça on tourne à bilan zéro en carbone. Mais le problème, c'est quelle quantité de plantes il faut disposer pour pouvoir remplacer le pétrole. Et le problème est là. Donc les algues, c'est une des solutions étudiées. Mais c'est il y a beaucoup de travail.
Dans ces recherches, on se retrouve plus dans une impasse ou
non, on avance. Oui. Par exemple, sur les algues, les problèmes sont liés au fait que les algues utilisent la lumière. Si on veut produire des grosses quantités, il faut qu'elles soient très concentrées. Mais si elles sont très concentrées, la lumière passe pas. Elle va arriver dans le premier centimètre, ensuite il n'y a plus de lumière. Donc ça suppose des cultures très étendues ou des cultures dans ce qu'on appelle des photobioréacteurs, donc des systèmes fermés dans lesquels on va optimiser l'éclairage pour pouvoir... Donc il y a des travaux, ça avance. Après, il y a beaucoup de... Toujours, hein, il y a beaucoup d'études qui sont basées sur des chiffres qu'on a extrapolés à partir d'un tube à essai. Donc on dit on va faire 40 000 tonnes à l'hectare. Ça, c'est un gars qui a réussi à obtenir ça dans son tube à essai. Il a calculé que dans... Voilà. Donc, alors, ça ne veut pas dire que... Enfin, je ne suis pas négatif par rapport à ça, mais on manque d'éléments pour établir la viabilité de ça. Mais l'idée générale, c'est quand même de se dire qu'à chaque fois qu'on va gagner 1% ou quelques pourcents de pétrole qui va être remplacé par de la biomasse, ben déjà, ce sera ça d'économiser du point de vue du pétrole et du point de vue du CO2 libéré, etc. Et donc, on ne peut que progresser.
On va peut-être poser des questions. C'est monsieur qui a une question.
Oui, moi j'avais une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, un chercheur en chimie qui s'oriente dans la chimie verte, c'est un révolutionnaire, un militant engagé, ou est-ce qu'il fait partie d'une synergie? Est-ce qu'il fait partie d'un réseau? Est-ce qu'il est contrôlé par des gens, entre guillemets? Et comment, la recherche fondamentale, à un moment donné, elle fait le lien avec les applications industrielles, etc. C'est très basique comme question, mais comment ça se passe? Est-ce que vous êtes vraiment dans un huis clos de chercheurs fondamentaux et en lien avec, en lien finalement uniquement avec vos questionnements et les pistes de recherche que vous avez? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a des échanges réels avec l'industrie qui peut créer des rasoirs biodégradables, créer des t-shirts biodégradables, etc. Comment ça se passe de façon un peu pratique, quoi?
C'est une question très intéressante. Je crois que je vais rebondir d'abord sur votre question de tout à l'heure sur la chimie du futur. La chimie du futur, justement, c'est cette chimie de la biomasse actuellement. Il y a énormément d'affaires. Alors, on le regroupe tout, de temps en temps sous chimie durable, chimie verte, etc. C'est un domaine en plein développement, certainement. Alors, deuxième petite remarque pour compléter ce que mon voisin disait. À juste titre, il a souligné que le pourcentage du pétrole qui est utilisé pour la chimie est faible. 7%, c'est, à mon avis, excessif. On parle plutôt de 5% ou quelque chose comme ça, avec 4% pour tout ce qui est matériaux. Bon, peu importe. Il y aura toujours, à mon avis, assez de pétrole pour la chimie. Donc, ce n'est pas tout à fait une bonne raison de dire on va remplacer le pétrole. Alors que pour les carburants, 95% de ces produits sont pour l'énergie, hein, carburant, chauffage, les voitures, le chauffage, etc.